serrant les hobbits avec douceur mais fermeté, chacun dans le creux d'un bras, Barbe-Bois leva d'abord un grand pied, puis l'autre, et il les amena au bord de la colline. Ses orteils en forme de racine s'agrippaient au rocher. Puis, d'une démarche précise et solennelle, raide, il se porta de marche en marche et descendit jusqu'au sol de la forêt. Sans s'arrêter, il partit à travers les arbres d'un long pas mesuré, s'enfonçant dans les bois sans vraiment s'éloigner du torrent, mais toujours grimpant vers les pentes des montagnes. Bon nombre des arbres semblaient endormis, aussi inconscients de sa présence que de celle de toute autre créature qui n'aurait fait que passer. Mais certains frémissaient, et d'autres levaient leurs branches au-dessus de sa tête à son approche. Et tout ce temps-là, tandis qu'il marchait, il se parlait à lui-même en un long déferlement de sons musicaux et ininterrompus. Les hobbits demeurèrent quelque temps silencieux. Curieusement, ils se sentaient tout à fait à l'aise et en sécurité, et ils avaient ample matière à réfléchir et à s'interroger. Enfin, Pipin aventura quelques mots.
« Pardon, Barbe-Bois, » dit-il, « puis-je vous demander quelque chose ? Pourquoi Celeborn nous a-t-il mis en garde contre votre forêt ? Il disait que nous risquions de nous y empêtrer.
« Ah bon ?» gronda Barbe-Bois. « Je pourrais vous dire la même chose si vous alliez dans l'autre direction. N'allez pas vous empêtrer dans le bois de Lorlindorinan. C'est ainsi que l'appelaient autrefois les elfes, mais de nos jours, ils en raccourcissent le nom, Lothlorien, disent-ils. Ils ont peut-être raison, peut-être est-il en train de se faner et non de croître. Pays de la vallée de l'or chantant, voilà ce qu'on disait il fut un temps. Maintenant, c'est la fleur de rêve. Eh oui! Mais c'est un endroit étrange, et tout le monde ne doit pas s'y aventurer. Je suis étonné que vous en soyez jamais ressorti, mais encore plus surpris que vous ayez pu y entrer. Voilà maintes années que des étrangers ne l'avaient pas fait. C'est un étrange pays. On peut en dire autant de celui-ci. Il a pu arriver malheur à des gens ici. Oui, malheur.
Lorlindorinan, Lindelorendor, Malin Ornelion, Ornemalin,
fredonna-t-il pour lui-même.
Ils prennent bien du retard sur le monde là-bas, je suppose, dit-il. Ni ce pays-ci, ni rien d'autre en dehors du bois doré, n'est plus ce qu'il était du temps de la jeunesse de Celeborn. Néanmoins,
Taure l'ilomea tumba le morna, tumba le torea l'omeanor.
C'est ce qu'il disait autrefois. Les choses ont changé, mais c'est encore vrai à certains endroits.
Que voulez-vous dire ? Dit Pipin. Qu'est-ce qui est vrai ?
Les arbres et les hentes, dit Barbe-Bois. Moi-même, je ne comprends pas tout ce qui se passe, alors je ne puis vous l'expliquer. Certains des nôtres sont encore de vrais hentes et assez animés, à notre manière. Mais bien d'autres sont de plus en plus somnolents, devenant arbresques, diriez-vous. La plupart des arbres ne sont que des arbres, bien entendu, mais beaucoup sont à demi éveillés. Certains le sont tout à fait, et quelques-uns deviennent, disons, hentesques. Cela se produit continuellement. Quand cela arrive à un arbre, on s'aperçoit que certains ont un cœur mauvais. Rien à voir avec leur bois, ce n'est pas ce que je dis. Ma foi, j'ai connu de bons vieux saules en bas sur l'Antévière, disparus depuis longtemps, hélas. Ils étaient complètement creux. En fait, ils tombaient en morceaux, mais ils avaient la voix tranquille et douce d'une tendre feuille. Et puis, il y a des arbres dans les vallées sous les montagnes, parfaitement sains et mauvais jusqu'aux trognons. Ce genre de choses semble se répandre. Il y avait autrefois des endroits très dangereux dans ce pays. Il y a encore des coins très noirs.
comme la vieille forêt au nord, vous voulez dire ?
Demanda Mary.
Oui, oui, quelque chose comme ça, mais bien pire. Je ne doute pas qu'il subsiste encore là-bas au nord une ombre de la grande obscurité, et les mauvais souvenirs se transmettent. Mais dans ce pays-ci, il est des vallées creuses où l'obscurité n'a jamais été levée et où les arbres sont plus vieux que moi. Mais nous faisons notre possible. Nous éloignons les étrangers et les téméraires, et nous formons et nous enseignons, nous marchons et nous arrachons. Nous sommes les bergers des arbres, nous, les vieux Ent. Nous sommes encore un certain nombre. Les moutons viennent à ressembler aux bergers, et les bergers aux moutons, a-t-on coutume de dire. Mais cela prend du temps, et les uns comme les autres ne restent pas longtemps au monde. Pour les arbres et les Ents, c'est plus rapide et plus marqué, et ils marchent ensemble à travers les âges. Car les Ents ressemblent plus aux elfes. Ils s'intéressent moins à eux-mêmes que les hommes, et ils sont plus doués pour pénétrer au cœur des choses. Mais en même temps, les Ents ressemblent plus aux hommes. Ils sont plus versatiles que les elfes et plus susceptibles de prendre la couleur de l'extérieur, si l'on peut dire. Ou bien ils les surpassent tous deux, car ils sont plus constants et leur esprit s'arrête plus longuement sur les choses. Certains des miens ressemblent tout à fait à des arbres à présent. Il faut quelque chose de majeur pour les éveiller et ils ne parlent que par murmures. Mais d'autres de mes arbres ont les branches lestes, et ils sont nombreux à pouvoir me parler. Ce sont les elfes qui ont tout commencé, bien sûr. Éveiller les arbres, leur apprendre à parler et comprendre leur langage arbresque. Ils voulaient toujours parler à tous les elfes anciens. Mais alors, la grande obscurité est venue. Et ils sont passés au-delà de la mer, où on fuit dans de lointaines vallées, et ils se sont cachés, chantant des jours qui ne seraient jamais plus, jamais plus. Si, si, il fut un temps où il n'y avait qu'une seule forêt, d'ici aux montagnes de Lune, et cette partie n'était que la pointe est. C'étaient les jours fastes. Il fut une époque où je pouvais marcher et chanter toute la journée sans entendre rien d'autre que l'écho de ma propre voix au creux des collines. Les bois étaient comme ceux de Lothlorien, seulement plus denses, plus forts, plus jeunes. Et la senteur de l'air. Il m'arrivait de passer une semaine rien qu'à respirer.
Barbe-Bois se tut, marchant à longues enjambées, mais produisant à peine un son avec ses grands pieds. Puis, il se remit à fredonner, et sa voix monta en un chant murmurant. Peu à peu, les hobbits s'aperçurent qu'il chantait pour eux.
« Je marchais au printemps dans les soleils de Tazarinan, ah, splendeurs et parfums du printemps de Nan Tazarion, et je disais que c'était bien. » J'errais en été dans les ormets de l'Ossiriande. Ah, lumière et musique de l'été de cette rivière d'Ossir, et je ne trouvais pas mieux. Aux étrées de Neldoreth, je venais en automne. Ah, le rouge et l'or et le soupir des feuilles de l'automne de Taor Naneldor. C'était plus qu'il ne m'en fallait. Au Pinède du haut d'Orthonion, je montais en hiver. Ah, la bise, la blancheur, les branches noires de l'hiver d'Orodnathon. Ma voix s'élevait et chantait dans le ciel, et désormais toute cette terre gise sous les flots, et je marche à Ambarona, à Taore Morna, à Aldalomé, dans ma contrée au pays de Fangorn, où les racines sont longues, où les années s'étendent plus épaisses que les feuilles, à Taore Morna Lomé.
Il acheva son chant et poursuivit sa marche en silence. Et dans tout le bois, si loin que porta l'oreille, il n'y avait pas un son. Le jour baissait, et le crépuscule s'enroulait autour des fûts des arbres. Enfin, les hobbits virent s'élever devant eux, indistinctement, un pays sombre et escarpé. Ils étaient arrivés au pied des montagnes et aux racines vertes du haut Metedras. Au flanc de la colline, la jeune Antévière, jaillissant de ses sources sur les hauteurs, s'élançait tumultueusement à leur rencontre, bondissant de pierre en pierre. À droite du cours d'eau, s'élevait une longue pente couverte d'herbes, à présent grise dans la pénombre. Aucun arbre n'y poussait, et elle donnait vue sur le ciel. Des étoiles scintillaient déjà dans des lacs bordés de rives nuageuses. Barbe-Bois gravit la pente à grandes enjambées, sans guère ralentir le pas. Soudain, les hobbits virent se dessiner devant eux une large ouverture. Deux grands arbres se tenaient à cet endroit, un de chaque côté, comme les montants d'un vivant portail. Mais il n'y avait là aucune porte, sinon leurs ramures croisées et entrelacées. À l'approche du vieil Ent, les arbres élevèrent leurs branches et toutes leurs feuilles frémirent et bruissèrent. Car ces arbres étaient s'impervirants et leurs feuilles, sombres et lustrées, luisaient dans la pénombre. Derrière ce portail d'arbres se trouvait un vaste espace plat, tel le plancher d'une grande salle creusée à même la colline. Les murs de chaque côté s'élevaient graduellement jusqu'à une hauteur de 50 pieds ou plus, et le long de chaque mur se dressait une rangée d'arbres qui, eux aussi, gagnaient en majesté à mesure que l'Ent avançait. Tout au fond, la paroi rocheuse était à pic, mais sa base avait été évidée en une sorte d'alcôve peu profonde, au plafond voûté en forme d'arche. C'était d'ailleurs la seule toiture de la salle, hormis les branches des arbres qui, vers la partie arrière, ombrageaient tout l'espace, ne laissant qu'une large allée découverte au milieu. Un petit ruisseau s'échappait des sources d'en haut et, s'écartant du grand cours d'eau, coulait sur la face abrupte du rocher avec un doux tintement. Ses gouttes argentées tombaient devant l'alcôve en un fin rideau. L'eau était récupérée dans une vasque de pierre creusée dans le sol entre les arbres. Puis, elle s'en déversait et ruisselait en bordure de l'allée pour aller rejoindre l'Antévière dans son voyage à travers la forêt.